qu'on assiste à une révolution de communication. La télé, c'est fini, dans le sens où c'est plus compliqué de faire passer un message via un spot publicitaire, parce qu'on sait que c'est des acteurs qui jouent. Ces personnes-là, on les connaît pas, on les regarde simplement derrière un écran, il y a une distance. Contrairement aux réseaux sociaux, à Instagram, où on va voir une Paola, tous les jours, on va la voir sur son téléphone. On va la voir, elle va nous parler directement via ses stories. Elle a notre âge, et quand on va la voir porter un vêtement, on va se dire « Ah bah, moi aussi, je veux porter ce vêtement ». C'est qu'une question de d'identification et de proximité, en fait.
Influenceur, le mot n'est apparu dans le dictionnaire que l'année dernière, mais la véritable éclosion du phénomène en France remonte à 5 ans. Comme son nom l'indique, un influenceur est quelqu'un dont l'opinion pèse sur la société. Dans ce sens, on peut dire que bien des leaders d'opinion, un terme des années 70 du siècle dernier, étaient déjà des influenceurs. Mais les réseaux sociaux, Instagram et YouTube principalement, permettent désormais à tout un chacun de devenir un relais d'opinion. Publicitaires et responsables de marketing ont bien vu les avantages qu'ils peuvent tirer de l'utilisation judicieuse d'un internaute disposant de plusieurs milliers de followers.
Ça donne une forme d'authenticité, un vocabulaire qui est parfois très différent du vocabulaire du marketing qu'on peut utiliser. C'est quelque chose qui est extrêmement frais, extrêmement authentique et c'est, je pense, une des raisons pour laquelle ça a eu autant de succès.
Et c'est ainsi que les cabinets spécialisés recensent quelques 150 000 influenceurs actuellement en France. Le nano-influenceur, tout petit, parle à moins de 10 000 abonnés, mais s'il exerce son talent dans un domaine très spécifique, son influence peut tout de même être considérable. La moitié de ceux qui ont plus de 50 000 abonnés en tirent un revenu financier. Au premier semestre de cette année, L'Oréal a investi 47% de ses dépenses publicitaires dans les médias numériques. Tout cela n'est pas sans poser de problèmes. Les influenceurs sont souvent des jeunes qui parlent aux jeunes. Qu'en est-il de leurs conditions d'exercice de ce qui n'est pas tout à fait une profession? Et par ailleurs, les valeurs hyper-consuméristes véhiculées par ce système semblent un peu à contre-courant de celles qui fédèrent désormais la jeunesse.
Sur Instagram, on montre tout ce qui est beau dans notre vie. C'est le réseau où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est un filtre à la vie, hein.
Enfin, l'effet de mode passé, les analystes de marché commencent à se demander si l'influence des influenceurs est si puissante qu'ils l'imaginaient. La toute-puissance des influenceurs, mythe ou réalité, c'est un reportage de Géraldine Allot avec Jean-André Giannichini à la prise de son.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Depuis quelques années, le petit monde des influenceurs sur les réseaux sociaux n'est plus du tout artisanal. Les influenceurs sont souvent contactés, en tout cas les plus connus d'entre eux, par des agences qui vont gérer leur contrat avec les marques et leur image. Alors justement, nous allons visiter l'une de ces agences, l'agence Follow.
Bonjour.
Ruben, enchanté.
Enchanté.
Bienvenue, je vous en prie. Bonjour.
Alors là, on est en shooting avec Paula. Je vais vous inviter à me suivre juste là. Donc, elle est en shooting pour une marque de cosmétiques.
Ça donne quand même un peu plus de mouvement.
Ok, c'est bien comme ça.
Tu peux faire ça où juste t'es de dos et tu te retournes et tu me regardes comme ça.
Attends, ouais, voilà. Là, c'est bien.
Tu peux juste te rapprocher un peu.
Ouais.
Voilà, c'est bien.
Sans moi comme ça.
Attends, ouais.
Ok. Magnifique.
Qu'est-ce que t'en penses?
C'est pas mal.
Ouais, j'aime beaucoup celle-là.
Ouais. Pour le focus produit, on peut valider celle-là, je pense.
Ouais.
Parfait.
Qu'est-ce que vous faites là exactement comme shooting?
Alors là, on est en shooting pour une marque avec Paula, une marque de cosmétiques. Alors la marque, c'est Fenty Beauty, la marque de Rihanna de cosmétiques.
Donc vous faites un shooting?
Exactement, c'est une collaboration qu'on a mis en place avec Fenty et Paula. Et l'idée justement, c'est on doit produire du contenu pour la marque. On produit du contenu vidéo et photo, et là on est en train de le réaliser, le mettre en place au sein de notre studio Follow.
Vous êtes Ruben Cohen. Exactement. Le cofondateur de l'agence Follow.
Exactement.
Follow, c'est quoi? C'est une agence d'influenceurs?
Alors Follow, c'est un label d'influenceurs qui existe depuis 3 ans. On manage des influenceurs, dont Paola.
Ils ont quel âge en moyenne?
Alors nous, on est spécialisé dans la génération Z, donc c'est entre 13 et 19 ans.
Pourquoi la génération Z?
Alors la génération Z, c'est la génération la plus connectée qui soit. C'est vraiment les jeunes qui sont nés dans les années 2000, qui n'ont pas connu un monde sans smartphone, contrairement à nous où Voilà, on a connu un monde sans téléphone, sans réseaux sociaux. Pour eux, bah, ça a toujours existé en fait. Ils sont nés avec.
Pourquoi les marques font autant appel à des influenceurs aujourd'hui selon vous ?
Alors, comme on l'a dit, je pense, on assiste à une révolution de communication. La manière de communiquer aujourd'hui n'est plus la même. On a besoin d'authenticité, on a besoin de création de contenu, on a besoin de voir les choses. On le voit de façon avec le format vidéo qui prend de plus en plus de place et qui intéresse beaucoup plus les gens.
Donc ça veut dire que les publicités à la télé ou dans les journaux, c'est démodé ?
Je sais pas si c'est démodé, mais c'est vrai que ça a moins d'impact. De toute façon, mettez-vous vous à la place d'une personne qui va regarder la télé, qui va voir des acteurs jouer, parce qu'on sait que c'est des acteurs qui jouent. Ces personnes-là, on les connaît pas, on les regarde simplement derrière un écran. Il y a une distance entre nous et la publicité qu'on va voir. Contrairement aux réseaux sociaux, à Instagram, où on va voir une Paola, tous les jours, on va la voir sur son téléphone. On va la voir, elle va nous parler directement via ses stories. Elle va nous envoyer des messages via ses photos. Donc on va se sentir très très proche d'elle. Elle a notre âge, plus ou moins notre âge. Je suis une jeune adolescente de 15 ans, je vais m'identifier à elle forcément. Et quand on va la voir porter un vêtement, on va se dire « Ah bah, moi aussi, je veux porter ce vêtement ». C'est qu'une question d'identification et de proximité, en fait.
Donc, je vous ai demandé en story quels étaient vos préjugés sur moi. Parce que ça m'intéresse grave de savoir, genre, quelle image je rejette, qu'est-ce que vous pensez de moi. Enfin, c'est le plus important, quoi. Qu'est-ce que vous me trouvez comme qualité ou comme défaut. Et du coup, bah, je réponds aujourd'hui en vidéo.
Alors, bonjour. Moi, c'est Paola Locatelli. J'ai 15 ans et je suis lycéenne, donc je suis en première. À côté, je suis influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé quand j'avais environ 12 ans. J'ai publié des vidéos sur YouTube, c'était vraiment ma passion. Je suivais beaucoup de YouTubeurs, d'ailleurs, qui sont maintenant des amis à moi très proches. Et je me suis identifiée à eux aussi. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube un petit peu comme eux. Pendant un an, je stagnais, j'avais 500 abonnés, mais je m'en fichais de mon nombre d'abonnés. C'était pas pour ça que j'étais sur YouTube, c'était vraiment par passion. Et plus les mois ont passé, plus les années ont passé, et plus bah, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont suivie et je suis devenue du coup influenceuse. Et aujourd'hui, je suis plus spécialisée sur Instagram. Donc c'est un réseau social que j'aime beaucoup. J'ai une grande communauté dessus.
Combien vous avez d'abonnés sur Instagram ?
1,2 million. On peut dire que ouais, c'est pas mal.
Donc vous avez été repérée petit à petit par des marques ?
Effectivement, à mes 60 000 abonnés à peu près, il y a des marques qui sont venues me contacter. Et c'est vrai que j'étais très jeune, mes parents... bah, ils sont pas dans le même monde que moi, c'est-à-dire qu'ils sont pas tout le temps connectés. Du coup, mes parents, ils savaient pas trop comment gérer les marques qui m'abordaient. Ils parlaient de prix, nous, on connaissait pas trop. Je savais même pas que on pouvait être payé sur les réseaux par rapport à des marques, etc. Et c'est à ce moment-là, du coup, que Follow est entré dans ma vie. Et du coup, c'est eux qui s'occupent de tout ça, de toutes les marques qui me contactent, des contrats, des partenariats, etc.
Pour combien de marques vous travaillez aujourd'hui ?
Une trentaine de marques ? Un peu plus, ouais, une trentaine de marques.
Est-ce que vous postez des photos tous les jours ? Est-ce qu'en gros, c'est une activité quotidienne pour vous ?
Pas forcément des photos tous les jours, mais en tout cas, je communique avec ma communauté tous les jours. Que ce soit en story Instagram, où je demande s'ils vont bien, où je publie des choses inspirantes pour les aider à avancer dans leur vie, ou ça peut être aussi des photos ou des vidéos sur YouTube, ça dépend. Mais tous les jours, j'ai une proximité avec eux et tous les jours, j'ai ce besoin de communiquer avec eux.
Vous avez 15 ans, donc vous continuez à aller en cours ?
Oui, bien sûr, c'est super important. Ma famille me pousse beaucoup à aller en cours, surtout mes parents, du coup. Certes, c'est une activité qui me prend beaucoup de temps, l'influence, etc. Mais l'école, c'est plus important que tout. Et je me dis que ça peut être éphémère aussi.
Alors justement, qu'est-ce qu'ils disent vos parents de cette activité d'influenceuse ? On précise qu'ils n'ont pas souhaité nous répondre. Ils préféraient que ça soit vous.
Maintenant, ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux et que tout ça prend de plus en plus d'ampleur. Ils arrivent à s'y faire et en tout cas, ils sont fiers de moi, donc c'est le principal.
Combien d'argent vous gagnez à peu près avec cette activité, Paola ?
Alors, moi, je vais vous répondre moi. C'est vrai qu'elle a 15 ans, donc on gère ça directement avec son père. Je pense que même elle le sait pas. Aujourd'hui, c'est plus par poste. Elle est suivie par 1,2 million personnes, ce qui est énorme. Aujourd'hui, avec Paola, on peut effectivement monétiser un poste entre 1 000 et 5 000 euros.
D'accord, donc c'est une source importante de revenus. Cet argent, il vous revient directement ? Il est placé ? Comment ça se passe ?
Mon argent, il est bloqué dans une société, donc dans une SAS. Mais moi, mon argent, enfin, je sais pas combien je gagne. Et en plus, je fais pas ça pour l'argent. Enfin, je m'en fous. S'il y a une marque qui me contacte et c'est une marque que j'adore, bah, je vais pas demander le prix ou combien je suis payée pour un poste. Je m'en fous. Donc, je connais pas du tout mes prix et c'est mon père et mes agents qui s'occupent de ça.
Vous avez une adolescence qui n'est pas commune.
En effet, j'ai une adolescence qui est pas commune, on va dire. Depuis maintenant 2 ans, je voyage beaucoup, je rencontre des personnes connues. Récemment, je suis allée à Séoul, je suis restée 48 heures, j'ai été invitée aussi par une marque. Et j'ai pu voir Rihanna à une conférence et elle m'a reconnue en pleine conférence. J'étais très surprise d'ailleurs.
C'est vrai que c'est un rêve pour une gosse de 15 ans, parce que ça reste une gosse de 15 ans, qui était là pour participer juste en tant que fan de Rihanna et de Fenty Beauty. Et c'est vrai que le fait que Rihanna la reconnaisse en lui disant « Mais c'est toi Paola ?» Donc ça, ça a vraiment fait le tour des plateformes, c'était sur, passé sur BFM. Et ça a pris, Paola a pris 100 000 followers en très très peu de temps.
Son ascension, elle, faut la suivre de très près, c'est absolument génial. Franchement, suivez-la, c'est trop bien ce qui se passe pour elle. On n'a pas tous sa chance, hein, donc travaillez bien à l'école, faites vos projets, mais évidemment, si vous avez un rêve, poursuivez-le. Si vous voulez devenir mannequin, vous pouvez le faire, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Bye, je vous aime.
Nous sommes à Paris,
bonjour,
dans le 10e arrondissement, et nous avons rendez-vous dans une agence de marketing plutôt traditionnelle, mais qui fait aussi appel à des influenceurs.
Alors, Marine Monturoni, je suis directrice de l'influence chez We Are Social.
Le milieu des influenceurs, c'est quelque chose qui est assez codifié. Il y a différentes strates, différents niveaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ?
Alors effectivement, quand on parle de taille d'influenceurs, on va avoir les nano-influenceurs qui vont être entre 1000 et 5000 abonnés. On va avoir les micros entre 5000 et 50 000. Les middle entre 50 et 200, ça varie en fonction de ce qu'on fait exactement. Puis ensuite, les macros, les tops, on va arriver jusqu'aux célébrités même. Ça dépend aussi de la plateforme sur laquelle les influenceurs ont l'habitude de communiquer, si c'est Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, maintenant Twitch, TikTok. Et ensuite, il y a leur spécialité, c'est-à-dire qu'un top influenceur spécialisé dans le voyage n'aura pas le même nombre d'abonnés qu'un top influenceur spécialisé dans la mode, par exemple.
C'est-à-dire ?
Un top influenceur dans le voyage, ça va être quelqu'un qui peut avoir 250, 300 000 abonnés. Un top influenceur dans la mode, c'est quelqu'un qui va avoir 1 million d'abonnés.
Qui sont les stars dans le domaine ?
Alors aujourd'hui, il y a les youtubeurs les plus importants. On va tout de suite citer Norman, Cyprien, Squeezie, qui ont dépassé les 10 millions d'abonnés sur YouTube, qui sont les premiers et toujours les têtes d'affiche. Ils font des vidéos de divertissement sur leur chaîne YouTube où un Squeezie encore récemment a testé la couture avec une machine à coudre.
Allez Lucas, c'est parti.
J'ai pété l'aiguille de la machine. L'aiguille est cassée.
Donc c'est vraiment un peu quelque chose qu'on pourrait faire entre copains, un peu amusant, juste pour passer le temps et rigoler et se détendre face à des vidéos.
Ce qui est étonnant, c'est que les influenceurs, on en a dans tous les domaines. On l'a entendu dans ce reportage, la mode, la beauté, mais aussi l'agroalimentaire, mais aussi l'institutionnel.
On a vraiment de tout. On va avoir des personnes qui sont passionnées de phénomènes paranormaux, qui vont visiter des endroits qui sont potentiellement hantés ou désaffectés. Et ça, il y a une grande communauté sur YouTube de personnes qui filment ça, et comme la manière des films d'horreur comme on avait dans le projet Blair Witch ou autre.
T'as entendu le bruit ? Par ici. Le sol fait rien bouger. Ça venait de là.
Ouh !
Très régulièrement, on trouve des choses un peu incroyables, des personnes qui sont passionnées d'électricité et qui vont essayer de construire des objets, faire passer du courant dedans et pour pouvoir créer des nouveaux objets électriques.
On a fabriqué cette bobine Tesla. Alors une bobine Tesla, en gros, vous faites des phénomènes de résonance électromagnétique et là, vous sortez 1 million de volts.
C'est parti !
Enfin, on a vraiment plein de domaines différents. Et si on creuse et qu'on passe du temps longtemps sur Instagram, sur YouTube, On peut perdre beaucoup d'heures, mais on peut découvrir beaucoup de choses aussi.
Dans ces exemples que vous donnez, il n'est pas question d'argent.
Il peut être question d'argent si, à un moment, une marque s'en mêle. Après, souvent, enfin, la première motivation, c'est la passion. Et ensuite, il y a YouTube qui va monétiser les vidéos. Donc, à partir d'un certain montant de vues, la vidéo peut devenir rémunératrice. Après, s'il y a une collaboration avec une marque, il peut y avoir rémunération aussi derrière.
Est-ce qu'il faut être jeune et beau pour être influenceur ?
Pas du tout. Et je pense même surtout pas, parce qu'il y en a déjà plein. Et aujourd'hui, si on veut se faire une place, c'est pas la peine d'essayer de rentrer dans cette case-là. Il vaut mieux être différent et plus original.
Bonsoir Solange, voici ma question. Quelles sont tes phobies ?
Les rapports sociaux de groupe, les sorties nocturnes de groupe, les voyages organisés en groupe, les... T'as compris.
Donc on l'a entendu, les influenceurs sont très importants pour les marques dans leur stratégie marketing. Nous sommes maintenant à Clichy-la-Garenne, tout près de Paris, au siège du groupe L'Oréal.
Vous êtes patiente ici, s'il vous plaît ?
La moitié des dépenses publicitaires de L'Oréal est destinée au support numérique. Et dans cette moitié, une partie importante et en forte croissance sert à rémunérer les influenceurs.
Ah oui, enchantée, on est super excités.
Nous avons rendez-vous avec Lubomira Rochet, c'est la patronne du numérique chez L'Oréal.
Veuillez appuyer sur le bouton du niveau demandé.
Alors chez L'Oréal, on a 36 marques et 65 pays dans lesquels on opère en direct. Et on travaille avec plus de 80 000 influenceuses et influenceurs. Ça va être sur du soin de la peau, ça va être sur de la coloration, ça va être sur du soin du cheveu, ça va être sur du parfum.
Comment vous les choisissez, ces influenceurs ? Est-ce que vous prenez ceux qui ont forcément 1 million d'abonnés ? Ou est-ce qu'un influenceur ou une influenceuse qui a 15 000 abonnés peut vous intéresser ?
Même parfois, des influenceurs ou des influenceuses qui ont moins de 1 000 abonnés peuvent nous intéresser parce qu'ils portent un point de vue qui est très fort sur une certaine catégorie.
Et dans ce cas-là, les fourchettes de rémunération, ça va de combien à combien ?
C'est très difficile à dire parce que en fonction du nombre de followers, en fonction du pays, c'est un marché, hein, le marché de l'influence. Donc on est sur des prix qui sont très très variés. Ça peut être plusieurs milliers d'euros pour un seul poste. Mais ça peut être aussi gratuit parce que l'influenceur ou l'influenceuse ou même la consommatrice, c'est pour ça que je vous disais, parfois on travaille avec des gens qui ont, comme moi, 1500 followers. Ça peut être aussi gratuit dans le sens où c'est quelqu'un qui a envie de parler de nos produits parce qu'il les aime.
Pourquoi vous faites appel à des influenceurs ? L'Oréal, c'est une marque qui est mondialement connue. On peut aller à l'autre bout du monde, on verra des publicités pour L'Oréal. Alors pourquoi vous avez besoin d'eux ?
En fait, aujourd'hui, on est chez L'Oréal, on essaie de comprendre où, quand, comment nos consommateurs trouvent l'information sur nos produits, comment ils ont des coups de cœur pour nos marques. Pendant longtemps, ça a été très lié à la publicité, à la télévision, dans les magazines, à la radio. Aujourd'hui, on sait que nos consommateurs, ils trouvent aussi leur information sur nos catégories de la beauté en ligne et particulièrement sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils font confiance à ces influenceurs et ces influenceuses pour, au fond, être une aide au choix ou une aide à la décision. Donc ça donne une forme d'authenticité, un vocabulaire qui est parfois très différent du vocabulaire du marketing qu'on peut utiliser. C'est quelque chose qui est extrêmement frais, extrêmement authentique et c'est, je pense, une des raisons pour laquelle ça a eu autant de succès. On se rend compte aussi que sur les réseaux sociaux, on a des logiques de communauté. On a par exemple une marque comme La Roche-Posay qui travaille beaucoup sur les peaux atopiques. Et on trouve des communautés de mamans qui ont des enfants qui sont atteints du syndrome de peau atopique. Et c'est vrai que ces communautés sont des grandes prescriptrices de nos produits sur les réseaux, elles le font très spontanément.
Alors, est-ce qu'à contrario, il y a eu récemment quelques scandales de faux influenceurs ou de nombre d'abonnés achetés. Est-ce que le risque, c'est pas que trop d'influenceurs tuent un petit peu le système ? C'est qu'on s'y perd un petit peu avec des influenceurs qui promeuvent un peu tout et n'importe quoi ?
C'est évidemment quelque chose sur lequel on est, nous, très vigilants. On a été parmi les premiers, avec le groupe Accor, à créer une charte éthique du marketing de l'influence. Ce sont des engagements qui sont liés au fait qu'on ne souhaite pas travailler avec des influenceurs qui n'ont pas une communauté, une vraie communauté, c'est-à-dire qu'ils ont construit de manière organique, de manière patiente, où il n'y a pas de phénomène de faux.
Est-ce que les influenceurs ont un impact sur les ventes ? Est-ce que ça, vous pouvez le mesurer ?
On peut le mesurer. Par exemple, certaines influenceuses avec lesquelles on va travailler vont pouvoir avoir un code promotionnel, par exemple. Donc, si elles peuvent, à partir de leur page Instagram, dire, ben voilà, aujourd'hui, j'ai découvert ce super produit de Maybelline ou de L'Oréal Paris, je vous encourage à aller l'acheter en ligne avec ce code promotionnel. C'est quelque chose qui nous permet, nous, derrière, de tracer, au fond, l'impact qu'a eu cet influenceur ou cette influenceuse sur nos ventes. On a eu un cas très concret d'une actrice, en fait, coréenne, qui, dans une de ses séries, a non seulement porté, mais exprimer en fait une teinte de rouge à lèvres Yves Saint Laurent et qui a été en rupture de stock dès le lendemain, pas seulement en Corée, dans le monde entier. Donc vous imaginez pour nous derrière les impacts en termes d'industrie, de chaînes de distribution, etc. Donc aujourd'hui on intègre de plus en plus dans nos prévisions de vente ce qu'on appelle l'analyse des sentiments ou l'analyse des mentions sur les réseaux sociaux pour s'assurer que si on a quelqu'un qui est très influent, qui parle d'un produit quelque part, sans même qu'on soit parfois au courant, on soit bien prêt derrière, du point de vue de la logistique, à être en capacité de livrer les produits.
Всем привет, с вами Диана Суворова, и в сегодняшнем видео буду тестировать новинки от бренда L'Oréal Paris.
Interception sur France Inter.
Pour les marques qui utilisent des influenceurs, il s'agit, comme on vient de le voir, de techniques commerciales pures et simples, avec des dérives, puisque, par exemple, un internaute peut acheter des followers et se donner ainsi plus d'importance qu'il n'en a. Bref, comme toujours avec le numérique, après une période de liberté totale où on pouvait faire tout et n'importe quoi, le moment est venu de réguler.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ?
On retrouve justement Géraldine Allot dans le 16e arrondissement parisien, au siège du gendarme de la pub, l'ARP, l'ARPP.
Stéphane Martin, je suis le directeur général de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui était cette instance depuis 1935, voulue par les professionnels, les marques, les agences et tous les supports de diffusion de messages publicitaires, pour s'autoréguler à partir de règles qu'elles se fixent elles-mêmes. On appelle ça l'ARPP.
L'ARPP a lancé un observatoire des pratiques des influenceurs. Pourquoi ?
Les influenceurs sont ces nouveaux émetteurs de messages, alors bien sûr à la base de contenus humoristiques, d'informations, enfin l'ensemble des sujets pour lesquels ils ont réussi à avoir, à agréger une audience, mais ils peuvent aussi avoir des collaborations commerciales. Et c'était ce point précis de la collaboration commerciale qu'il nous fallait organiser et notamment montrer de bonnes pratiques, la première des meilleures pratiques étant la nécessité d'identifier qu'il y a bien une collaboration commerciale.
C'est-à-dire que les influenceurs doivent indiquer, que ça soit sur Instagram, sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, quand ils reçoivent de l'argent des marques ?
Alors c'est toute forme de contrepartie. Bien sûr, on pense à l'argent, mais parfois ça peut être sur des voyages, des cadeaux. Donc c'est dès qu'il y a une contre-valeur et engagement réciproque. Et bien sûr, une nature promotionnelle. Donc c'est ce faisceau d'indices qui va qualifier la collaboration commerciale. Donc, premier indice, c'est qu'il y a une contrepartie. Deuxième indice, c'est qu'il y a un engagement réciproque. La marque dit, voilà, je vous donne un tel argent, ça serait bien de parler comme ci, comme ça, et plutôt tel jour. Et puis, la dernière des choses, c'est qu'évidemment, l'engagement va porter sur une nature promotionnelle. Si ces trois critères sont remplis, c'est de la publicité, en fait. Il y a des conditions qui s'appliquent souvent, avec la même responsabilité que l'on a quand on est n'importe quel émetteur d'un message publicitaire.
À l'autorité de régulation professionnelle de la publicité que vous dirigez, j'imagine que vous avez un œil particulier sur les mineurs, parce qu'il y en a beaucoup des mineurs influenceurs.
Alors, il faut être vigilant, bien sûr, quand ce sont des mineurs, où là, l'ARP n'intervient pas, c'est surtout le champ du travail, hein, et notamment quel statut, par exemple mannequin, comédien, hein, ces mineurs peuvent et ont, et notamment quand ils sont vraiment très jeunes, et puis le travail de comédien, on le sait bien, des enfants est très encadré, enfin, donc ça, il y a une partie, on va dire, juridique sur laquelle les marques sont très sensibles et quand ce sont les parents qui les accompagnent, évidemment, il faut que les parents soient informés de cette dimension qui est que dès qu'il y a une rémunération, bah, par exemple, une partie de l'argent est bloquée à la Banque de France jusqu'à leur majorité. Et donc, ça vaut aussi pour leurs heures de travail. Il faut être vigilant, bien sûr. Ça ne doit pas prendre sur leur temps scolaire. Donc, il y a toutes ces choses-là. Il y a la règle aussi de responsabilité de l'inscription sur les réseaux sociaux. Rappelons que la norme, c'est à partir de 13 ans.
C'est peu respecté. Hein.
Alors, ils sont peu respectés, mais parce que ça vient des parents, en fait. Hein. Y compris, parfois, y a des parents créent un compte Facebook à la naissance de l'enfant. Donc oui, après il y a une volonté, mais ça fait partie de la responsabilité des parents, éventuellement de mentir sur l'âge de leurs enfants, mais donc à toutes les autorités parentales d'assumer ensuite le suivi et l'accompagnement de ces outils qui aident à la socialisation, on le sait bien, mais qui ne doivent pas enlever non plus de la vie réelle et du jeu dans la vie réelle.
Nous sommes tout près de la place Vendôme à Paris, au milieu des décorations de Noël. Et nous avons rendez-vous avec un influenceur assez connu sur Instagram, vu qu'il a plus de 40 000 abonnés.
Moi, je m'appelle Loïc Cardozo-Vira. Donc, je suis Instagrammeur depuis à peu près 4 ans. Et donc, je vis à Paris depuis 3 ans et je travaille pour le groupe Estée Lauder, donc des cosmétiques américains à Paris. Donc, j'ai un vrai travail, un CDI du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Donc, voilà, je travaille dans un bureau et je suis Instagrammeur en parallèle. Donc, c'est une passion, c'est un hobby, c'est un petit bonus pour moi dans la vie.
Vous avez quel âge ?
J'ai 26 ans.
On va commencer par la source. Est-ce qu'on peut aller regarder votre compte Instagram? Donc c'est sur votre
Bien
portable.
Sûr. Donc voici mon compte Instagram. J'ai actuellement 40 000 followers. Donc je poste des photos de moi avec des vêtements pour inspirer ma communauté sur des looks ou des restaurants que j'aime bien. Les burgers. Je suis un fan de burgers et j'aime beaucoup l'architecture parisienne. Donc je mets aussi des monuments parisiens quand je me promène le week-end qui plaisent pas mal à ma communauté.
Donc on va prendre quelques posts. Là, votre dernier, par exemple, c'est vous.
Ouais.
Vous êtes en doudoune.
Voilà.
Est-ce que vous êtes payé pour ce poste ?
Alors là, pour ce poste, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis 2 ans et demi. Donc qui me donne souvent des produits. Et moi, en échange, je fais des stories ou des posts comme celui-ci. Parfois, je suis rémunéré. Ici, c'était vraiment un cadeau de la marque avant les fêtes de fin d'année, comme ça, pour me faire découvrir une collection. C'est un poste non rémunéré, mais c'est un cadeau.
Combien vous gagnez en tant qu'influenceur par mois ?
Moi, ça varie entre 500 et 1000 euros. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas une source de revenus qui me permet d'en vivre à 100%. Donc, je reçois à peu près une vingtaine de mails par jour, des propositions de marques en tout genre, des cigarettes électroniques, des agences de voyage, des marques de vêtements, des marques de bijoux.
Mais est-ce que du coup, ça ne fait pas un peu homme sandwich, le fait d'avoir autant de collaborations ?
Non, c'est vraiment mettre en avant des services qui sont utiles aux gens comme moi. Par exemple, une astuce sur comment mettre une veste avec une chemise et un t-shirt en superposition ici, ou voilà, un petit look un peu des années 90s, en mettant en avant une marque ici, mais du coup, j'allie un peu le conseil avec l'apport d'une marque.
Combien de temps vous y passez par jour ? Parce que vous avez un travail à côté. On l'a dit, vous travaillez dans un service de communication d'une grande marque de cosmétiques.
J'y passe plus de temps le week-end que la semaine, mais en semaine 2 heures et le week-end peut-être par jour, j'irai bien 4 heures.
Est-ce que vous avez le droit de déconnecter ? Si à un moment donné, un week-end, vous ne voulez pas prendre de photos et vous ne voulez pas poster, est-ce que les marques vous en laissent la possibilité ?
Oui, ça, les marques, on est en contrat avec eux pour une collaboration, pour une photo ou une story. Mais en revanche, dans ma vie en général, les marques ne régissent rien du tout. Si je veux un week-end en famille, je peux complètement éteindre mon téléphone et ne pas aller sur Instagram. En revanche, c'est mes abonnés qui risqueraient d'être moins contents, puisqu'ils attendent que je mette en story ce que je fais le vendredi soir, ou voilà, ce que je mange le week-end, où est-ce que je suis allé, avec qui je suis. Et quand on m'envoie des messages en privé, il faut aussi que j'y réponde. Donc si je mets 2 jours à répondre à un message, ça crée une distance. Donc non, ça je le fais pas.
Donc vous êtes un peu obligé de rester avec votre téléphone en main.
Complètement.
Les influenceurs, ça fait grincer un peu des dents, que ce soit parfois chez les journalistes professionnels, notamment dans la beauté, qui vont dire c'est un monde aseptisé où tout le monde est beau, où tout est léché. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
C'est vrai que sur Instagram, il y a beaucoup de très belles photos, de beaux paysages, des vacances à Dubaï, à Zanzibar, à Rome. Sur Instagram, on montre tout ce qui est beau dans notre vie. Mais c'est comme sur Facebook à une époque, on montrait nos vacances, on disait qu'on avait un diplôme, qu'on avait un nouveau job. Ou sur LinkedIn aussi, on montre ça, on montre qu'on a une promotion. Les réseaux, on montre que ce qui est bien. Et Instagram, effectivement, c'est le réseau où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est un filtre à la vie, hein. C'est pour mettre un petit peu de bonheur dans la vie de tout le monde, tous les jours.
Je m'appelle Michael Stora, je suis psychologue, psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et spécialiste des réseaux sociaux.
Qu'est-ce que cela vous inspire, cette mode des influenceurs ?
J'ai l'impression, en ayant rencontré certains influenceurs, qu'ils ont en effet une véritable influence, ils en ont conscience, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ont créé ce qu'on appelle le concept de self-branding. Ils sont leur propre marque. Parfois, il y a une forme de toute-puissance qui m'inquiète.
Est-ce que ce sont des modèles positifs pour la jeunesse ?
Non. Profondément, je pense que ce ne sont pas des modèles positifs. Mais ça repose une autre question, c'est-à-dire à quel point l'apparence est devenue un enjeu existentiel. Ce que prônent ces influenceuses, et influenceurs d'ailleurs, ils commencent à en avoir, c'est avant tout cette question de l'image comme une manière d'exister, disons les choses à l'image de la télé-réalité. Facebook et puis Instagram reprend quelque part les codes de la télé-réalité, c'est de l'internet-réalité. Et au fond, ces apparences, souvent, sont trompeuses, ça on le sait. Mais au-delà, si la chose n'est pas photographiée, c'est comme si elle n'existait pas. Et c'est là où c'est très inquiétant, parce que finalement, on va d'une certaine manière éviter de penser l'image. L'image ne nous aide pas à penser. Elle nous capte, elle nous aspire, mais d'une certaine manière, elle ne nous permet pas d'élaborer quoi que ce soit. Donc c'est vrai que prôner l'apparence comme une manière de se sentir vivre et exister, c'est d'une certaine manière, à un moment, faire l'économie d'une élaboration, de mettre en avant la question de la profondeur. Et c'est là où moi je m'inquiète pour les adolescents. Dans la réalité, la grande majorité, ce sont des jeunes femmes qui nous montrent une position terriblement idéalisée. Et il n'y a pas plus tyrannique que ces questions, justement, d'un idéal souvent inatteignable.
C'est quand même l'hyperconsommation, une hypermaîtrise de soi. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal qu'il y ait autant de jeunes gens qui suivent ces influenceurs, alors que dans le même temps, une partie de la jeunesse défile contre le réchauffement climatique, pour une transition écologique plutôt radicale ?
Mais vous savez, c'est évident, notre monde est fait de paradoxes parce que, pour reprendre la question des influenceuses d'ailleurs, certains prônent le féminisme à outrance. C'est leur corps, elles ont le droit de faire appel à la chirurgie esthétique, mais en même temps en étant des caricatures de ce que les hommes aiment chez une femme, c'est-à-dire une sorte d'image très idéalisée. Donc il y a cette sorte de paradoxe. En effet, oui, c'est vrai que lorsqu'on interroge un adolescent, il est pris lui-même dans ce paradoxe avec des idéaux qui peuvent être politiques, même si l'écologie est quand même quelque chose d'assez récent, dont les jeunes s'emparent de manière massive, et en même temps, ils vivent leur adolescence, c'est-à-dire cette quête identitaire, cette quête à travers l'image de soi, qui se construit aussi sur les réseaux sociaux, et aussi parfois, certains évoquent « c'est plus fort que moi ». Ils peuvent avoir une sorte de sens critique en disant « oui, je sais que c'est un peu ridicule, mais c'est plus fort que moi. J'ai besoin de les regarder. » Comme finalement, lorsqu'on a regardé certaines magazines féminins, ça provoque une sorte de fantasme qui est en général lié à un manque. Et à l'adolescence, le manque est profond, le manque d'identité qui se construit.
Salut, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est enfin le moment de vous annoncer que je passe dans
Interception,
les reines du shopping.
Alors voilà, maintenant je porte des lunettes.
Oui, mes sourcils ont changé, j'ai oublié de vous le dire dans la dernière vidéo.
On a transformé des slips en brassière.
Sur France Inter.
La tyrannie de l'image risque donc de faire des dégâts en raison même des domaines dans lesquels les influenceurs exercent leur talent. Des domaines par ailleurs très variés, la beauté et la mode, bien sûr, sont les plus visibles, mais on trouve aussi des influenceurs culturels. Poursuivant son reportage, Géraldine Allot s'est rendue en Seine-et-Marne chez Maïté, une influenceuse littéraire.
Maïté, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 33 ans.
C'est ça.
Et sur Instagram, vous vous appelez Mademoiselle Lee.
Exactement.
On peut regarder votre compte Instagram avec vous. Donc vous avez plus de 51 000 abonnés, 51 400 abonnés.
Oui, on dit que je suis la première influenceuse littéraire de France. Apparemment, c'est le cas. Il y a beaucoup de comptes aujourd'hui qui ont 20 000, 30 000 abonnés. Donc, on est quand même une belle communauté de blogueuses. Moi, je suis super contente que la littérature attire comme ça du monde parce que bien souvent, les réseaux sociaux, c'est synonyme de mode, beauté. C'est plus compliqué d'attirer les foules avec des livres. Donc, c'est super.
Votre photo de profil, c'est vous en chaussettes. Enfin, c'est surtout vos pieds, d'ailleurs.
Alors, en fait, ça, c'est un petit clin d'œil parce qu'en fait, quand je me suis lancée, j'ai créé le pseudo Mademoiselle Lee. Et au début, j'avais beaucoup de retours de gens qui me disaient « Mais je comprends pas, il n'y a pas de lit. » Sur ton compte Instagram, ils ne comprenaient pas le rapport avec la littérature. Ils pensaient que j'allais promouvoir la literie, les oreillers. Je me suis dit, bah, pourquoi pas jouer sur ça et me mettre allongée sur un lit avec une paire de chaussettes. Et puis le livre et la petite tasse de thé qui correspond à toutes les bookstagrammeuses. Il manque plus que le chat pour faire la panoplie complète.
Alors, quels sont vos derniers posts et quels sont vos derniers conseils de lecture?
Bah là, on rapproche des fêtes, donc c'est un peu des idées de cadeaux de Noël. J'ai eu un coup de cœur pour Culture Générale, le journal, qui est un énorme journal en forme d'encyclopédie pour apprendre la culture générale de la préhistoire à nos jours. Également Balance ta cape, qui offre un petit journal intime sur le développement personnel pour aider les mamans à décomplexer. On n'arrive pas forcément à être parfaite dans tout. C'est rempli d'humour, c'est plein de petits conseils utiles pour les mamans et j'ai adoré.
Quels sont vos auteurs favoris ?
Je suis fan d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est lui qui m'a amenée à la littérature. J'aime beaucoup tous les auteurs français, Philippe Besson, Delphine de Vigan. J'aime beaucoup la littérature italienne aussi avec Elena Ferrante par exemple. Le roman contemporain principalement et en classique, j'ai une grande passion pour Marcel Pagnol.
Est-ce que vous êtes rémunérée pour poster des photos de livres et des commentaires de livres ?
Oui, alors je ne suis pas rémunérée à chaque poste, je le suis parfois. Il y a des maisons d'édition qui me proposent des collaborations rémunérées, des partenariats, des concours par exemple qui peuvent être financés. Ma rémunération, elle passe aussi par du travail sur des salons du livre, des rencontres littéraires, des interviews d'auteurs ou du placement de produits. Et il peut arriver qu'une marque m'envoie son produit, du thé ou du chocolat par exemple, hein, pour me rémunérer.
Quand est-ce qu'on voit sur vos posts quand vous avez été rémunéré par la maison d'édition ou quand vous ne l'avez pas été ?
Avec le hashtag sponsorisé. Tout simplement, c'est la législation qui est faite comme ça. Sur Instagram, on est obligé de mettre le hashtag sponsorisé pour signaler qu'on a été rémunéré en échange de ce post.
On peut regarder là, vos posts ?
Oui, bien sûr.
Donc là, il y a le livre d'Elena Ferrante avec un sac à main dessus.
C'est le sac à main qui... La collaboration, elle est sur le sac à main. Donc je l'ai reçu et en échange, je dois faire un post. Alors j'ai toujours le rapport à la littérature. Je refuse de faire des choses qui sont complètement hors sujet. Voilà, l'objectif c'était, j'ai ce sac pour transporter facilement mes livres de poche. Je le fais également quand c'est du thé, quand c'est du chocolat. C'est des photos que je mets facilement en scène pour partager mes lectures.
Donc par exemple, là, vous avez reçu combien d'argent pour ce post-là avec le sac à main à côté du livre d'Elena Ferrante?
Ça va, alors... Pour ce poste-là, je pourrais pas vous dire précisément, mais ça peut aller jusqu'à 250 euros. En moyenne, c'est ça, 200 euros à peu près.
Comment ça se passe si une maison d'édition vous envoie un livre, vous propose de vous rémunérer, mais que vous n'aimez pas le livre ?
Je le dis tout le temps. Mais je pense que c'est ça aussi qui plaît au niveau de ma communauté. J'ai pas envie d'être positive à chaque fois, je donne réellement mon ressenti. C'est important.
Vous gagnez combien en moyenne par mois avec cette activité de bookstagrammeuse ?
Pour vous donner une fourchette, on va dire entre 1000 et 1500 euros par mois. Donc le but, c'est d'en faire plusieurs pour ensuite choisir la meilleure photo avec la meilleure luminosité et puis ensuite retravailler avec les filtres.
Bonjour, Nicolas. Bonjour. Enchantée. C'est bien de mettre un visage.
Nous sommes à La Défense, au siège de l'entreprise Kantar.
Par ici.
C'est une entreprise spécialisée dans les études de marché.
Je suis François Nicolas, je suis directeur marketing pour la branche média.
Le pouvoir des influenceurs, c'est un mythe ou c'est une réalité ?
Il y a sans doute une petite part de mythe, mais il y a surtout une grande part de réalité. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on a une société où la plupart des entités institutionnalisées, les marques, les médias, les politiques, ont perdu peu à peu de la confiance avec les citoyens, avec les consommateurs. Et on reconstruit petit à petit cette confiance avec les personnes dans lesquelles on va pouvoir tisser un lien réel ou virtuel de complicité ou de proximité ou d'intimité, ou les personnes dans lesquelles on va projeter un peu ce qu'on voudrait être et on va tisser un peu cette confiance. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, c'est vieux comme les marques, je dirais. Les égéries, les célébrités, ça existe depuis très longtemps, c'est juste qu'on a changé d'époque avec... les nouveaux moyens qu'offre le marketing électronique, digital, les nouveaux moyens qu'offre le smartphone, le téléphone portable. Et tout ça fait que petit à petit, on a changé d'époque aussi avec l'influence. Et l'influence, aujourd'hui, passe avec les influenceurs.
Ce qui
qu'il n'y a pas une forme de lassitude des internautes face à une certaine complaisance globalement des influenceurs, des influenceuses? Tout est toujours formidable, tout est toujours exceptionnel.
La lassitude, oui, il y en a une. Et elle vient de deux raisons. C'est d'une part que le marketing de l'influence s'est concentré dans un premier temps sur les nombres. C'est-à-dire que tout le monde a voulu avoir les gros influenceurs qui ont du coup ont été très courtisés et qui ont pu justement apporter leur caution à des marques un peu à la chaîne et perdre une certaine crédibilité auprès du grand public. Deuxième raison, c'est que dans cette recherche de nombres, des influenceurs ont trouvé plus malin d'aller acheter des wagons de followers qui ne sont pas des vrais followers et qui sont soit des robots, soit d'autres systèmes de ce qu'on appelle les pharma followers et qui ne sont pas la réalité de leur impact sur l'audience, de leur impact sur l'influence. Et donc là aussi, on a perdu une certaine crédibilité. Je pense que cette période est plutôt derrière nous aujourd'hui. Les marques ont rééquilibré l'attraction vers les nombres par l'attraction vers l'engagement, ce qui est le domaine plus qualitatif de l'influence. C'est-à-dire qu'on va regarder vraiment si un influenceur arrive à engager, à créer une action, à créer une réaction même auprès de sa communauté. Un partage, un like, des commentaires, mais va pouvoir engager sa communauté. Et du coup, ça donne un aspect qualitatif qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui et qui valorise les influenceurs qui sont de vrais créateurs, je dirais.
On vous retrouve, Michael Stora, vous êtes psychologue, spécialiste des réseaux sociaux. On va regarder maintenant avec vous une vidéo d'Enjoy Phoenix. C'est une influenceuse très connue en France, notamment dans le domaine de la beauté. Son vrai nom, c'est Marie Lopez.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Je pense que c'est une des vidéos les plus dures que j'ai jamais eu à tourner sur cette chaîne. Du coup, mon état d'esprit général depuis à peu près un an, c'est vraiment cette impression de vous mentir, cette impression d'avoir toujours un sourire et une façade devant la caméra et de pas vraiment finalement faire des choses qui me plaisent.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Elle a dit, ce qui m'attriste, c'est l'impression de vous mentir. Mais je pense que c'est à elle même qu'elle se ment. C'est le problème des influenceurs, parce qu'au fond, que ce soit des influenceurs sur YouTube ou d'autres, ils ont pu avoir, peut-être dans un premier temps, une sorte d'authenticité. D'ailleurs, Enjoy Phoenix, à un moment, avait évoqué qu'elle avait vécu des harcèlements à l'école. Donc, elle est un peu spéciale, chacun un peu à part. Mais néanmoins, c'est cette idée qu'à un moment ou à un autre, je me construis justement une image qui va petit à petit s'éloigner de mon moi réel. Une sorte de tension assez délirante entre le moi virtuel et le moi réel. En psychanalyse, on appelle ça le faux self. C'est-à-dire lorsque des enfants sont élevés, non pas tels qu'ils sont, mais tels qu'on aimerait qu'ils soient. Et je crois que c'est ça qui se passe avec ces influenceurs. Je pense même, en ayant rencontré certains influenceurs, ils sont épuisés. J'ai parfois même peur pour leur santé mentale. D'une certaine manière, à force d'être dans cette sorte d'étirement entre le moi réel et le moi virtuel, on peut tomber en dépression. Et d'ailleurs, dernièrement, j'écoutais le témoignage d'une jeune femme de 21 ans, pleine de filtres Instagram, etc. Elle a rencontré un garçon et le garçon lui dit « Mais c'est pas toi, je ne te reconnais pas ». Et ça a été terrible pour elle.
Qu'est-ce que vous conseilleriez aux parents ? Est-ce que vous leur dites « Laissez vos ados s'abonner à telle chaîne YouTube ou suivre les comptes Instagram » ou est-ce que vous les mettez un peu en garde contre cette accumulation d'images idéalisées ?
Compliqué parce qu'il n'y a pas un parent identique. Il y a des parents qui eux-mêmes suivent des influenceuses prises dans des nostalgies qui vont utiliser le filtre Instagram parce que tout d'un coup, ça enlève toutes les rides, c'est parfait. Mais on parlait de la question de la réussite ailleurs que simplement dans le nombre d'abonnés et de montrer que les réussites dans le réel, les réussites à travers scolaires, entre autres, par exemple, ont une valeur beaucoup plus puissante que n'importe quel like. Je crois qu'en même temps, ce qui m'est arrivé à une époque où il y avait cette sorte de tyrannie très idéalisante d'Instagram, vous avez certains youtubeurs qui ont de l'humour. Et entre autres, il y en a un qui s'appelle Cyprien, qui a fait un sketch qui s'appelle les Instagrammeuses. il va très loin, c'est très très drôle, et je pense que c'est encore une fois ce qui peut nous sauver. C'est justement d'en rire un petit peu.
Oh là là, mais ce qu'il est mignon.
Je l'ai appelé Sweetie.
Sweetie, oh c'est chou. Mais t'es pas allergique aux chiens, toi?
Moi? Non, de mémoire, non.
Alice, t'as pris un chiot pour avoir plus de likes sur Insta.
Mais pas du tout, t'es folle ou quoi? Vas-y, prends-le deux secondes, faut que je prenne mes antihistaminiques.
Regarde la caméra.
Et tu prends pas en photo mes likes? Mon chiot, je veux... Sweetie, hein. Heureusement que ça fait des likes.
C'est terrible parce qu'idéalement, on a envie de rire avec les influenceuses, mais là, on rit des influenceuses, mais de cette caricature dans laquelle on est et on plonge. Donc évidemment, on ne peut que prôner quelque part, pas que simplement des valeurs intellectuelles, mais au moins cette capacité à penser et à réfléchir sur ce que l'on voit.
La toute-puissance des influenceurs, MeToo réalité, c'était un reportage de Géraldine Allo avec Jean-André Giannichini à la prise de son. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier, mixage Bruno Mourlon. Dimanche prochain, nous vous proposons un autre reportage de Géraldine Allo et Jean-André Giannichini sur les méfaits du réchauffement climatique sur les montagnes, diffusé une première fois le 16 juin dernier. Dans quelques instants, vous retrouverez Eva Bester pour Remède à la mélancolie.